Laurence Thomas, le journal. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. À quelques jours des vacances de février, les professionnels de la montagne attirent l'attention sur le ski nocturne. C'est interdit, dangereux et potentiellement mortel. Un policier toujours en fuite, activement recherché, connu pour des faits de violence conjugale. Il est soupçonné d'avoir tué sa compagne. À 80 ans, Sergio Mattarella reste à la tête de l'Italie. Il ne voulait pourtant pas briguer un second mandat. Mais les profondes divisions entre les partis au gouvernement en ont décidé autrement. Le sport, avec la fin du championnat d'Europe masculin de handball, la France en piste pour une troisième place.
Et nos invités ce matin, dans 20 minutes, la pianiste et chanteuse Jeanne Chéral pour son spectacle cinéma. Ce sera demain soir au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris à 8h20. Philippe Poutou, candidat du NPA à l'élection présidentielle. Laurence Thomas, le journal.
Peut-être aurez-vous la chance de passer vos vacances d'hiver au ski alors, et parce que ça va mieux en le disant, sachez qu'il est interdit et surtout extrêmement dangereux de s'adonner aux joies du ski de nuit. À la nuit tombée, les pistes sont aux mains des dameurs et de leurs engins. Sur les pentes les plus raides, il faut savoir que les engins sont attachés à un treuil en haut de la piste par un câble en acier de plusieurs centaines de mètres de long. Un câble qui peut se transformer en véritable guillotine. Reportage dans les Vosges du Sud à la station de ski de la Planche des Belles-Filles. Cédric Hermel.
La neige est tellement belle sur les pistes que Evelyne est en train d'enfiler sa tenue et pose la question à sa fille.
Justine, ça te viendra l'idée de skier la nuit ?
La réponse est non. D'autres en revanche préfèrent attendre que tout le monde soit parti pour enfiler leur ski ou emporter la luge et descendre les pistes, et ce à n'importe quelle heure de la nuit, explique Anthony, employé de la station de la Planche des Belles-Filles.
Que ça soit des fois à 5h le matin juste derrière la dameuse sur le ski de fond ou le matin très tôt vers 6h sur les pistes alpins.
Avec le matériel qu'il faut, la lampe frontale accrochée au casque ou au torse, mais ce qui inquiète le plus le directeur de la station, Laurent Asselin, c'est que lorsqu'ils descendent...
Et malheureusement, pendant ce temps-là, on a les dameurs qui sont en train de faire leur travail sur les pistes. On dame au treuil, donc il y a un câble qui est tendu sur tout le long de la piste, qui n'est pas spécialement voyant et qui peut être très très dangereux si le skieur le touche. Quoi.
C'est déjà arrivé justement qu'un skieur heurte ce treuil ou pas ?
Alors heureusement que non, parce que s'il le heurte, honnêtement, il pourrait presque être découpé quoi, selon la vitesse où il arrive. Donc c'est quand même un gros câble, il est quand même bien tendu, donc voilà, c'est très très dangereux. Quoi.
D'autant que les employés
constatent qu'ils ont des skieurs toutes les nuits. Quoi.
Au grand dam de Laurent Asselin, qui pourtant les prévient à la fermeture, mais semble démuni.
À part pouvoir trouver les gens sur le parking, les prévenir qu'il ne faut pas y aller, on ne peut pas faire plus malheureusement.
Il en vient à se demander quand arrivera le premier accident de nuit.
Cédric Hermel de France Bleu Montbéliard. C'était le quatrième patient quelques jours à avoir fugué d'un hôpital psychiatrique de Toulouse. Hier soir, il a été interpellé à Paris dans le 9e arrondissement, plus de 24 heures après avoir pris la fuite. Mis en examen en 2011 pour viol sur sa compagne, il avait été jugé pénalement irresponsable avant d'être hospitalisé. Lui est toujours activement recherché, un gardien de la paix de 29 ans, soupçonné d'avoir tué sa compagne, une femme de 28 ans, retrouvée morte vendredi dans la baignoire de l'appartement du couple à Paris. Il avait prévenu ses collègues policiers qui n'allaient pas venir travailler vendredi après-midi, mais sans nouvelles et inquiets, ils ont donné l'alerte et les policiers du 19e arrondissement ont fait la macabre découverte. L'homme est connu pour des faits de violence conjugale, Fanny Boucaud.
En octobre 2019, le policier de 29 ans avait été placé en garde à vue pour des violences sur sa compagne de l'époque. Pas de poursuite alors pour des violences conjugales, mais il avait fait l'objet d'une convocation pour un stage de sensibilisation à ces agressions et avait droit à un suivi assuré par des psychologues et des médecins de prévention. Concernant son métier, le gardien de la paix avait été sanctionné d'un avertissement, sanction la plus basse de la fonction publique et qui n'apparaît pas dans son dossier. Réaction immédiate sur Twitter du collectif féministe Nous Toutes, Emmanuel Macron, Elisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, vous avez la responsabilité de protéger ces femmes. Comment un policier connu pour des faits de violence était-il toujours en fonction ? Ce féminicide aurait pu être évité. En juin dernier, c'est le suspect qui avait demandé l'aide de la police pour un différend avec sa compagne. Il présentait un visage tuméfié. Pour l'instant, une enquête est en cours pour homicide volontaire sur concubin.
Fanny Boucaud, la politique, la gauche suspendue ce dimanche au verdict de la primaire populaire. 467 000 inscrits ont jusqu'à cet après-midi 17h pour désigner un champion capable de réunir toute la gauche à la présidentielle et pousser la porte du deuxième tour. Sur le front de l'épidémie, le plateau des contaminations se confirme, 330 000 cas hier samedi, mais mathématiquement l'ensemble des hospitalisations continue de progresser avec un total de 31 282 patients. 178 personnes sont mortes du Covid à l'hôpital ces dernières 24 heures. Et puis ce communiqué du ministère de la Santé santé, la durée du certificat de rétablissement accordé aux personnes infectées par le Covid sera ramenée à 4 mois contre 6 actuellement, et cela à compter du 15 février.
À Bordeaux, Laurence, l'impatience et le désarroi des sinistrés de la rue de la Rousselle.
Il y a 7 mois, les immeubles des 19 et 21 de cette rue du centre historique de la ville s'effondraient. Dans la foulée, les 130 habitants d'une dizaine d'immeubles contigus étaient évacués. L'arrêté de péril imminent a été levé fin décembre, ce qui veut dire que certains riverains sont autorisés à revenir chez eux, ceux dont l'entrée ne donne pas dans la rue sinistrée. Mais sur fond de travaux de sécurisation et de procédures judiciaires qui traînent en longueur, leurs indemnisations se font attendre, Béatrice Duguay.
Que font les assureurs? La question sur la banderole donne le ton à l'entrée de la rue.
Il n'y a que deux assureurs qui ont eu un geste solidaire envers quelques foyers. Ça représente environ 10 personnes dont les frais de relocation étaient pris en charge. Les autres assurances, elles ont abandonné les victimes.
Thomas Drouf n'y va pas par quatre chemins, outré que les 130 délogés soient maltraités, négligés. Il est président de l'association des sinistrés de la Rousselle.
Et en plus des frais de relogement, on demande aux victimes de payer les frais d'expertise, les frais de réparation, les frais de sécurisation.
Sofiane Bouabib devrait lui pouvoir rouvrir Arcada, son restaurant, dans le courant du mois de février. Mais pour payer ses charges depuis 6 mois, il a trouvé un autre emploi, assureur, pour ainsi dire, aux abonnés absents.
Oui, c'est ça. On garde le moral, mais c'est long. On peut tenir, surtout après un an de Covid.
Clairement, l'avocat du restaurateur se bat pour obtenir l'indemnisation prévue par le contrat. Les sinistrés, eux, ont retrouvé des logements avec l'aide de la mairie, reconnaît Thomas Drouf, mais il a fallu se rééquiper.
On est parti de chez nous le 21 juin avec une valise, mais il manque le matériel professionnel. Tout ça, on a dû le racheter à nos frais. Il y a un étudiant qui m'avait appelé, il n'avait pas de manteau, et il ne pouvait pas retourner chez lui. Et il me dit, il commence à faire froid, j'ai pas les moyens d'en racheter un.
Certains assureurs ont même rompu les contrats de résidents de la rue par refus du risque désormais. Les sinistrés comptent sur les élus et les pouvoirs publics pour infléchir des compagnies sans vergogne.
Béatrice Duguay, 70 millions d'Américains paralysés par une tempête de neige accompagnée de terribles rafales de vent. 30 cm de neige dans le quartier new-yorkais de Brooklyn, 60 cm accumulés à Long Island. Cette tempête qui frappe l'est du pays est qualifiée de potentiellement dangereuse. 90 000 foyers sont actuellement privés d'électricité dans le Massachusetts. Le président italien Sergio Mattarella, finalement réélu pour un deuxième mandat. Les grands électeurs n'ont pas réussi à s'entendre, ils ont donc appelé le président au secours. Cette élection va laisser des traces, car si l'Italie a évité une nouvelle crise politique, elle continuera, Bruce de Galzin, à être gouvernée par Mario Draghi.
Sergio Mattarella et finalement Mario Draghi sortent gagnants de cette élection, même si le chef du gouvernement a perdu son pari. Mario Draghi ne sera pas encore président, mais il sort renforcé de cette bataille politique entre partis. C'est à lui de recoller les morceaux de la large coalition qu'il dirige. Et pour cela, il imposera davantage ses vues à des partis affaiblis après le mauvais spectacle qu'ils ont donné. Dans le gouvernement, la Ligue de Matteo Salvini peut perdre du pouvoir. Salvini lui-même n'est plus le leader de la coalition de droite qui a éclaté. La coalition de gauche n'est pas en meilleure forme avec un mouvement 5 étoiles sans boussole. Mais tous devront voter une nouvelle loi électorale avant les prochaines élections législatives dans à peine plus d'un an. Et ce alors que le nombre de parlementaires sera réduit de plus d'un tiers, passant de 945 à 600. Plusieurs chefs de parti militent aussi pour une élection présidentielle au suffrage universel direct. L'Italie se rapproche encore un peu plus du régime semi-présidentiel à la française. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Un mot de sport avec la fin du championnat d'Europe masculin de handball. C'est aujourd'hui à Budapest.
Avant la finale entre l'Espagne et la Suède, match à 18h. Eh bien, dès 15h30 cet après-midi, la France et le Danemark vont se disputer le match pour la 3e place et la médaille de bronze. Dernier effort au terme d'un euro éprouvant à cause du Covid. C'est aussi pour la jeune génération des tricolores l'occasion, Jean-Pierre Blimeau, de remporter une première médaille avec les Bleus.
Dans cet euro, l'équipe de France a été renouvelée à moitié après le titre olympique de l'été dernier. Et parmi les Bleus, 10 joueurs n'ont encore jamais obtenu de médaille avec l'équipe de France A. Parmi eux, Karl Konen, appelé pour sa première grande compétition internationale avec l'équipe de France.
Cette compétition, c'était les montagnes russes entre le Covid, les blessés, l'épidémie de grippe qui a frappé l'équipe. On est passé par toutes les émotions, le faux pas à l'Islande. Ça serait vraiment dommage de rentrer en France sans rien.
Et dans ce contexte, les novices peuvent pousser les anciens à faire un dernier effort, reconnaît Nicolas Karabatic.
Je pense que pour une bonne partie de l'équipe qui n'a pas encore gagné de médaille internationale, ce sera plus facile pour se mobiliser.
Et parmi les nouveaux, Aymeric Mine considère qu'une victoire face au Danemark serait un atout important pour la suite de l'aventure avec les Bleus.
On a quand même une équipe jeune et si on arrive à commencer cette phase de transition pour la médaille de bronze, c'est quand même exceptionnel. Je ne sais pas si on aurait signé pour ça, mais en tout cas, ça reste une très belle médaille à aller chercher.
Mais l'essentiel, c'est que l'équipe de France peut remporter la 22e médaille de son histoire dans une grande compétition internationale, 30 ans après la première, en bronze, aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Budapest, Jean-Pierre Blimaud, France Inter.
Jean-Pierre Blimaud dans le journal de Laurence Thomas. Le temps de ce dimanche.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Jean-Michel Golinski, ce sera mieux qu'hier hein, sur la moitié nord.
Exactement, avec le retour d'éclaircies. Alors tout d'abord au nord de la Seine, puis en journée jusqu'à la Loire et le Grand Est. Autour de la Méditerranée, le vent très turbulent va maintenir un ciel bien dégagé. Il se chargera tout de même un peu plus en journée sur la Côte d'Azur et sur la Corse. Enfin, sur le reste du pays, la grisaille va rester compacte, se mêlant parfois de pluies très faibles et doublée de brouillard givrant actuellement sur le Midi-Pyrénées et le bassin aquitain. Cet après-midi, il est prévu un maximum de 19 degrés à Perpignan, 17 à Montpellier, 15 à Bastia et à Nice. Il fera 12 à Rennes et à Brest, des valeurs souvent limitées entre 6 et 8 degrés sur le reste du pays.
Jean-Michel Golinski, Météo France.